Je vous prie de prendre votre Bible maintenant, de l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu 27, nous en lirons les versets 33 à 37. Matthieu 27, 33 à 37. Lisons tous ensemble au nom de notre Seigneur. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils en ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « C'est Lucie et Jésus, le roi des Juifs ». Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Amen.
Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Je pensais que pendant les vacances, il y aurait moins de monde, et puis... Je vais peut-être demander à un diacre de bien vouloir s'avancer, sans trop tarder, parce que j'ai une mission de la plus haute importance à confier à ce diacre-là, qui confiera à son tour une mission de la plus haute importance à notre cher Jonathan, qui est là-haut. Parce que j'aimerais que tu puisses regarder sur cette clé une diapositive dont je tairai le nom, mais que tu devineras. Et à un moment donné, si possible, tu la diffuseras. Vous avez compris ce matin, avec la lecture que nous avons écoutée, que nous allons parler, encore une fois, de ce qui est la raison d'être du christianisme, la crucifixion de Jésus-Christ. C'est là l'acte fondamental du christianisme, ce sans quoi il n'y a rien. Si nous enlevons la croix, il n'y a pour nous perdu même plus Dieu, puisque notre seul avenir, c'est la mort éternelle. Car la seule façon de sortir de cette impasse, c'est le salut obtenu par, notamment, la croix de Jésus. Et vous remarquez d'emblée le paradoxe devant lequel nous nous trouvons. Puisque nous sommes en train de dire qu'il y a en la croix l'acte majeur du christianisme. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons d'une guillotine. Nous parlons d'une seringue. Nous parlons d'une hache. Nous parlons de tous ces outils que les bourreaux depuis toujours ont utilisé. C'est là le paradoxe du christianisme. Fondé sur l'horreur, fondé sur la mort, la vie. D'ailleurs, Dieu a voulu nous donner des images naturelles de ce paradoxe. Prenez le grain de blé. Il est mort. On le jette en terre. Le miracle a lieu. La vie apparaît. Revenons-en, si vous le voulez bien, à notre croix. Et à notre paradoxe. Je suis toujours marqué, surtout dans le sud de la France, beaucoup en Bretagne, un peu moins par ici, par tous ces calvaires que nous trouvons sur nos chemins de campagne. Je suis également frappé, non pas que cela me gêne esthétiquement ou moralement, mais par ces croix que nous portons autour du cou. D'ailleurs, peut-être y en a-t-il ce matin parmi nous. Je suis toujours frappé par la banalisation de la croix. Car à force de la voir, on ne la voit plus et on finit par ne plus rien regarder lorsqu'on considère ce symbole-là. Non seulement nous ne voyons plus qu'il s'agit d'un acte dramatique dissimulé derrière ces deux bouts de bois croisés, mais finalement, nous ne voyons presque plus rien. Alors j'aimerais ce matin que nous puissions regarder la croix. Et c'est là que je me tourne presque désespérément vers Jonathan. Et je vais vous demander de regarder ce qui va apparaître en grand écran. Et là, dites-moi ce que vous voyez. Quels sont ceux qui ont vu la vieille dame ? Quels sont ceux qui ont vu la jeune femme jolie ? Moitié-moitié. Je vous rassure, pour ceux qui n'ont vu que la vieille femme, j'ai regardé pendant 5 minutes fixement, sans rien faire, l'image et je n'ai vu que la vieille femme. Mais je puis vous dire que la première fois que j'ai regardé cette image, au bout de quelques minutes d'attention, j'ai perçu après la vieille femme cette silhouette plutôt agréable, celle de la jeune femme. Tu peux couper, Jonathan, merci. C'est un peu pareil avec la croix. Que regardons-nous lorsque nous la regardons ? Est-ce que nous regardons la vieille dame, c'est-à-dire la mort, la seringue, la guillotine, la culpabilité, la culpabilisation? Ou bien allons-nous regarder tout cela, mais pour, comme le grain de blé, nous projeter vers la raison d'être de la croix, vers la vie? Allons-nous plutôt regarder la jolie jeune fille? Cette jolie jeune fille, j'aimerais vous la décrire ce matin. J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir la croix pour ce qu'elle a de plus beau. Et ce qu'elle a de plus beau, c'est d'abord un chiffre. Vous savez que si les évangiles avaient été écrits avec autant d'attention qu'on a écrit dans ces mêmes évangiles, ou certains d'entre eux, le récit de la croix, de la passion, il eût fallu 9000 pages pour contenir les 4 évangiles. C'est dire si le rédacteur ou les rédacteurs évangéliques ont particulièrement décortiquer le message de la passion, le message de la croix, pour nous indiquer qu'il y avait là non seulement un message extraordinaire, important, mais surtout un beau message, une belle jeune fille. En effet, lorsque la Bible insiste tout particulièrement sur un point, au point d'en faire son essentiel, c'est qu'il y a au fond de ce message, de ce point, un beau message que nous résumons généralement par un mot qui commence avec un grand A, amour. L'autre élément qui me paraît intéressant lorsque nous regardons cette belle jeune fille, cette croix sous cet angle-là, c'est la dynamique négative qui s'abat sur le Christ à ce moment-là. J'aimerais vous poser une question et vous sensibiliser encore une fois ce matin. Appréciez-vous les gens bien ? Oui. Oui. Essayez d'imaginer une personne qui ne ferait que du bien toute la journée, du matin au soir. Permettez-moi de vous dire qu'au bout d'un certain temps, cette personne va vous agacer. Pour une seule et bonne raison. Elle sera le miroir de tout ce que vous n'êtes pas. De tout ce que je ne suis pas. Et je crois que si Jésus est en croix, c'est aussi pour cela. Jésus était un chic type. Lorsque nous interrogeons les passants,
d'ailleurs je l'ai fait,
et que nous leur demandons de nous dire un mot sur Jésus, voilà ce qu'ils disent. Tristesse, formidable, héritage d'amour, envie de pleurer, remerciement. Et on pourrait comme ça. Que du bon. Que du positif. Je crois que c'est un peu le malheur de Jésus. À force d'être trop bon, on finit par agacer. Et des fois, à ce point que l'on finit sur une croix. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder qu'à cause de ces raisons ou cette raison, c'est un chic type qui est sur cette croix. Voilà aussi un pan de cette jolie fille. Un autre pan, une autre partie de sa silhouette. Je crois que nous sommes tous devant la croix à un moment donné, non seulement limités, mais abasourdis. Et permettez-moi une troisième sensibilisation ce matin. Qui est mort sur la croix ? Qui meurt sur la croix ? Le péché. Oui. Personnellement, qui meurt sur la croix ? Dominique ? J'ai pas compris. Mais ne théologisez pas. Simplement. Merci. Qui meurt sur la croix ? Mais c'est Jésus. Et qui est Jésus ? Le Fils de Dieu. Et cette expression est d'ailleurs significative. Elle nous indique sa divinité. Autrement dit, sur la croix, c'est Dieu qui meurt. Vous arrivez à intégrer ça ? C'est impossible. Parce que ça pose des questions. Si sur la croix, ne serait-ce que le temps du sabbat, Dieu meurt en Jésus, mais comment le monde peut-il exister ? Voilà une question théologique lourde, compliquée. Mais ce que nous devons nous dire, c'est plutôt pourquoi. Pourquoi en Jésus, Dieu est capable de se supprimer. Et c'est là aussi l'un des beaux côtés de la croix, parce qu'il aime. Dieu est prêt à prendre un risque fou, celui de son absence, et de laisser les choses ainsi, en suspens. Parce que l'essentiel,
parce que la priorité pour lui, sur ce bois, à ce moment-là, c'est le salut de l'homme. C'est l'amour qu'il a pour l'homme. Je crois qu'il y a aussi, lorsque nous pesons simplement ce que nous acceptons habituellement, une facette extraordinaire. Dieu sur la croix meurt. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi.
Une autre dimension extraordinairement belle, relative toujours à la croix, c'est celle de la séparation. Jésus, et en lui Dieu, meurt sur cette croix, ce qu'il va de fait nous amener à la notion de séparation. Le Christ, pour la première fois, va expérimenter une séparation particulière, celle d'avec Dieu. En effet, que dit-il sur cette croix ? « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous remarquerez que c'est peut-être une des rares fois où Jésus ne dit plus « Papa, Abba, mais mon Dieu !» pour nous exprimer déjà dans l'affirmation de cette séparation combien elle est prégnante et présente dans la réalité, dans l'intensité, dans la dramaturgie de l'expérience qu'il est en train de subir. J'étais à l'école de Mincy, là où nos enfants, Elisabeth et moi, sont inscrits, et j'ai été surpris de voir qu'après bien des mois d'école, la rentrée scolaire ayant lieu en septembre, un enfant avait encore bien du mal à lâcher la main de sa mère, et lorsqu'il voyait arriver la maîtresse ou le maître, voyait le diable. Cette image, quelque part, et notamment le comportement de cet enfant à ce moment-là, dont on perçoit un vrai désarroi, une véritable peur, ce n'est pas du cinéma. C'est comme ça, pourquoi je ne l'ai pas. J'aime utiliser cette image pour voir quelque part ce Jésus-Christ sur cette croix. Nous avons un être qui, depuis toujours, a expérimenté une étroite relation avec Dieu, puisque, étant l'une des trois personnes de la divinité, il n'y a jamais eu de début à l'être Christ. Autrement dit, la relation entre le Christ, le Père et l'Esprit a toujours été. Et c'est là d'ailleurs aussi une impasse intellectuelle. Nous avons bien du mal, sur la droite du temps, à concevoir moins l'infini. Je vous ramène à vos souvenirs de mathématiques. Mais l'avantage de cette acceptation, cet moins l'infini, depuis lequel nous arrivent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous invite à penser l'étroitesse de la relation qui existait entre ces trois partenaires. Et au moment de la croix, voilà que cette relation s'estompe, s'arrête, se brise. Il y a bien des explications théologiques toujours qui valent plus ou moins le coup. Je vous en livre une, celle de Saint Anselme au XIIe siècle, qui a imaginé qu'à ce moment-là, il y avait un transfert de tous les péchés de toute l'humanité, ceux qui depuis Adam avaient été accomplis par tous les hommes, mais également ceux qui, au moment où le Christ est en croix, continuent d'être accomplis, et ceux qui jusqu'à la fin des temps seront accompli. Tout cela, comme par miracle ou magie, on ne sait plus trop quoi dire, se transporterait au moment de la croix sur les épaules du Christ et il deviendrait la personnalisation même du péché. C'est une explication théologique qui a au moins le mérite de nous inviter à mesurer l'indispensable séparation qui, à ce moment-là, doit prendre place entre le Christ et son Père.
Vous savez, cette séparation n'est pas que momentanée. Je me souviens de l'histoire que certains pasteurs racontaient pour indiquer la banalisation que nous faisons parfois de la mort de Jésus-Christ. Cette histoire est la suivante. C'est celle d'un professeur de Bible dans une école confessionnelle qui dit à ses élèves « Savez-vous ce qu'il en a coûté à Christ sur la croix ? Pouvez-vous imaginer ce qu'il a dit au brigand qui était à côté de lui ? » Et là, un élève frondeur de répondre « Dans 3 jours, je ressuscite. » Le Christ n'avait pas le sentiment de ressusciter dans 3 jours. Au moment où le Christ expérimente la séparation d'avec le Père, il a le sentiment que jamais plus il ne le verra. C'est aussi le beau message de la croix. Pourquoi cette séparation ? Pourquoi ce tourment ? Pour nous, pour notre salut, un autre pan de cette belle femme. Je pourrais aussi vous parler des souffrances physiques et rester dans la même catégorie d'arguments. J'imagine que vous avez vu le fameux film de Mel Gibson tant décrié à l'époque, La Passion du Christ. Permettez-moi de vous dire que c'est ainsi que les choses se sont passées. Lorsque l'on fouettait, on ne fouettait pas avec un simple fouet. Il y avait au bout de ce fouet des boules de plomb, et au bout des boules de plomb, il y avait des clous de 1 à 2 centimètres. Et imaginez passer quelques minutes comme ça, sous ce fouet. Certains ayant décrit scientifiquement la flagellation qui précédait la crucifixion, ont rapidement conclu que des plaies béantes étaient ainsi portées sur le supplicié, qui ensuite devait prendre sa croix pour y être cloué et finir comme vous le savez. Voilà qu'à la séparation et donc à la souffrance morale s'ajoute la souffrance physique. Pourquoi ? Toujours la même réponse. Par amour pour l'homme. C'est aussi le beau message de la croix. Et enfin, des points importants aussi, relatifs à cette croix et qui nous permettent d'en extraire sa substantifique moelle, son cœur juteux, la plus belle partie de cette femme. Vous connaissez sans doute ce texte que nous relirons maintenant, 1 Corinthiens 1, le verset 23, dans lequel il est dit que la croix est pour les Juifs un scandale, une pierre d'achoppement, un objet qui fait trébucher, et pour les Grecs une folie. 1 Corinthiens 1, verset 23. Encore une fois, à travers une telle déclaration, nous considérons le risque de la croix, la possibilité de ne voir en elle que la mort, que le mal, ou de ne rien voir. Mais à bien y regarder, la croix n'est pas que scandale ou folie. La croix est aussi enseignement. Et j'aimerais maintenant, et pour conclure, vous livrer quelques-uns des pans de cet enseignement christique. Le premier, nous le trouvons dans les éléments corollaires à la croix. Vous savez que le Christ a refusé une coupe au moment de la croix. Vous souvenez-vous de ce dont était constitué le breuvage contenu dans cette coupe ? Du vin et du fiel. Et que va faire le Christ ? Il boit, il boit pas ? Il boit pas. Plus exactement, il trempe les lèvres quand il perçoit ce que c'est, il n'avale pas. Il goûte, mais il ne consomme pas. Ce qui nous amène à quoi ? Ce qui nous amène à l'idée de conscience que le Christ avait. Ce qui est en train de se réaliser à ce moment-là, le Christ veut le percevoir, même si cela est douloureux pour tout ce que nous avons déjà dit, en toute conscience, en étant pleinement maître de ses pensées, de sa raison, des tenants et des aboutissants de ce qui est en train de se jouer. On peut penser que le Christ, légitimement, aurait pu faire une exception et prendre un peu de ce breuvage pour soulager au minimum les souffrances et morales et physiques. Il ne le fait pas, parce qu'il veut rester lucide. Pourquoi ? Je crois qu'il y a là un message de la plus haute importance. Le Christ nous dit, j'ai pleinement compris ce que je faisais. Je l'ai pleinement assumé. Je l'ai pleinement souhaité, même si ça m'en a coûté. Et si ce pleinement, il me revient à moi, eh bien toi, tu n'as qu'à vivre de la grâce de cette plénitude. De la grâce consécutive à cette plénitude. Plus le Christ nous invite à travers cette simple coupe à comprendre la clarté intellectuelle, la clarté même émotionnelle dans ce qu'il était en train d'expérimenter, et plus nous sommes invités à regarder à lui et à accepter de lui tout ce que pleinement et en toute conscience il a réalisé. Cette coupe nous ramène à la grâce. Premier enseignement relatif à la croix. Le deuxième enseignement, c'est celui que nous pouvons trouver lorsque nous considérons la matière sur laquelle le Christ est cloué. Un bois, un tronc, ou du moins le bois dont il est ici question provient probablement d'un tronc d'arbre. Et là, permettez-moi de vous poser une question. Mais où le problème a commencé ? Sur un arbre ? Sur un tronc d'arbre, probablement. Du moins, c'est comme ça que les représentations artistiques et religieuses du Moyen-Âge nous présentent le serpent enroulé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus, lorsqu'il est cloué sur ce bois, sur cet arbre, nous pourrions dire audit aussi, reprend l'expérience qui nous a conduits dans ce fratras, permettez-moi le mot. Quel est le problème posé par le serpent édénique lorsqu'il est enroulé sur le bois, le tronc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mourrez pas, et voilà que malheureusement, Ève, qui est attentive à cette parole doucereuse et subtile, entre dans le processus machiavélique et implacable de la tentation, avec à la clé la chute. Lorsque Jésus vient au moment de sa croix à lui, de son arbre à lui, et qu'il accepte en pleine conscience tout cela, il reprend la problématique de départ. Et il dit à toute la terre et à nous aujourd'hui, Satan est un menteur. Je vous ai dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Eh bien, aujourd'hui, vous tous en moi, sur ce bois, vous mourrez. Jésus restitue une vérité fondamentale concernant Dieu. Contrairement à ce que Satan a dit, Dieu n'est pas un menteur. Et aujourd'hui, par ma présence meurtrie sur ce bois, je le démontre. Je meurs. Et comme je meurs aujourd'hui, moi Dieu qui me suis fait homme, si vous m'acceptez par la foi, ce sont tous les hommes qui avec moi meurent sur ce bois. Jésus réhabilite sur la croix la parole de Dieu, l'honneur de Dieu. Il dit à tous ceux qui observent ce moment-là, et non seulement les hommes présents, mais les anges et tous les univers, lorsque le doute a été levé sur Dieu, au moment même où le serpent a commencé à parler à Ève, au moment même où Dieu a été accusé de mensonge et de tout ce qui va avec, le discrédit s'est porté sur lui. Le doute s'est loti dans vos esprits. Eh bien aujourd'hui, sur cette croix, je rétablis toutes choses et je démontre par ma mort combien ce que Dieu avait dit dès les origines était vérité. Voilà aussi le beau côté de la croix. Il est curieux de constater dans la Bible le rapport étroit qui existe entre la parole et particulièrement pour nous ce matin, la restitution de la parole juste, de la vérité et la vie. Lorsque Dieu va créer, il utilise en hébreu le davar, que nous traduisons en français par la parole. Et dès qu'une parole sort de la bouche de Jésus d'ailleurs, il y a une création, une réalisation, une concrétisation qui se manifeste. Au moment même où sur cette croix, Jésus réhabilite la parole de Dieu, l'honneur de Dieu, eh bien la vie peut réapparaître. Et voilà aussi pourquoi la croix rime avec la vie. Quel beau message aussi, caché dans la croix, qui nous invite à notre tour à être honnêtes, justes, et dire la vérité lorsque l'occasion nous en est donnée. Et j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Pierrette, qui a le courage, de même que l'intelligence, d'appeler pour dire « c'est pas ça ». Restituons la vérité, c'est ce que le Christ a fait sur cette croix concernant Dieu qui plus est. Le vêtement.
Lorsque le Christ est cloué sur la croix, que font les soldats ?
Ils se partagent le vêtement. Vous vous souvenez de ce que Dieu a fait lorsqu'Adam et Ève ont péché ? Il leur a enlevé le vêtement que eux s'étaient confectionné et il leur a donné un vêtement. C'est d'ailleurs probablement le premier sacrifice d'animal. Jésus sur la croix, il ôte, ou du moins on lui ôte le vêtement. Quel est le message ? Quelle est la symbolique ? Et nous comprenons le rapport avec la vie. Daniel nous disait que sur la croix, c'est le péché qui meurt, et il a bien raison. Parce qu'au moment même où Jésus se laisse déshabiller, il démontre à travers son humanité, il démontre à travers tout ce qu'il est en ce moment même, la représentation, combien le péché est abominable. Si Jésus est victime des hommes, si Dieu le Père laisse Jésus être victime des hommes, le frapper à ce point, dimension physique, si Dieu le Père accepte que Jésus soit séparé pour la première fois de lui, souffrance morale, au point d'être convaincu de ne jamais revoir ce Père avec qui il a été depuis toujours. C'est tout simplement pour que le monde comprenne combien le péché est horrible. Combien le péché a un prix. Et la manifestation optimum, magnifique, nous pourrions même dire, du péché et de toute son horreur, c'est le Christ sanguinolent, seul, séparé du Père, sur cette croix. Et c'est là que le message devient extraordinaire. Ce Christ qui porte tous les péchés du monde, celui que vous avez fait ce matin, peut-être en cet instant, à travers une pensée malencontreuse, ou que sais-je. Tout ceci était en Christ au moment de cette croix. Et tout ceci a été cloué. Et c'est là que nous devons penser à ce texte de Galates 3, verset 13, ou 4, verset 13. Ce qui est pendu au bois, ce qui est cloué au bois, est maudit, comprenons, tué, détruit, annihilé, disparu, c'est fini. Au moment même où le Christ est en croix et qu'il représente le péché pour tout ce que nous avons dit, n'oublions jamais qu'il est cloué sur ce bois et que ce simple geste, cet horrible geste, signifie, et c'est là le message positif fondamental de la croix, que le péché est détruit, qu'il disparaît en Jésus-Christ, en sa crucifixion. Et dès lors, nous débordons sur dans la vie, dans la grâce, lorsque par la foi, nous acceptons tout cela chez Jésus-Christ, venant de Jésus-Christ. Et enfin, et j'en termine, vous avez remarqué ce qui était écrit au sommet de la croix ? Roi des Juifs. Deux explications. La première, c'est pour se moquer. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que Dieu a beaucoup plus d'humour que les moqueurs. Ceux qui ont planté avec toute l'ironie que nous devinons cet écriteau sur le sommet de cette croix et la tête de Jésus n'ont pas compris qu'il nous délivrait là une vérité extraordinaire. Oui, Jésus est le roi des Juifs, et pas que des Juifs, des Grecs et de nous tous, non seulement des hommes, mais des anges et de toutes les créatures. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il est sur cette croix, il réalise entre autres tout ce que nous avons dit ce matin. Alors regardons cette belle jeune fille cachée derrière cette croix. C'est là ma prière pour chacun. Amen.